Écoutez le monde changer. Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Je vous propose souvent des voyages au travers de cette émission, mais celui que nous allons faire aujourd'hui, tous ensemble, s'annonce réellement comme le plus fascinant. Je reçois l'homme qui, entre autres, a réussi aux confins de l'espace la capture, afin de le réparer, du fameux télescope Hubble, grâce auquel on sait que l'univers a 13,7 milliards d'années. Alors ce héros, forcément modeste, eh bien c'est l'astronaute Jean-François Clairvoy qui vient de publier aux éditions Vuibert un livre absolument passionnant, coécrit avec Franck Lehaut, livre qui a pour titre « Histoire de la conquête spatiale ». Donc si vous êtes prêt à embarquer pour cette émission, d'ailleurs, bonjour Jean-François Clairvoy.
Bonjour.
Le décollage d'une fusée, ça se fait sur la rampe de lancement, sur le pas de tir, on dit comment ?
On dit sur le pas de tir.
Sur le pas de tir.
Voilà.
Bon.
Et vous êtes en général assis dans un siège, mais comme dans un avion, sauf que l'avion il pointe le nez vers le haut, donc vous reposez sur votre dos.
Ouais.
Et vous imaginez qu'en face de vous, c'est le ciel, c'est le zénith.
On va essayer, grâce à vous, de toucher le zénith. Alors Jean-François Clairvoy, est-ce qu'il est vrai que le réalisateur Alfonso Cuarón a eu l'idée de réaliser Gravity, le film aux 7 Oscars, en visionnant le documentaire Mission Hubble, qui relatait donc la façon dont vous avez capturé et réparé, depuis la navette Discovery qui volait à 28 000 km/h, ce fameux télescope Hubble qui rendait l'âme dans l'obscurité du cosmos? Est-ce que c'est vrai cette histoire?
Oui, tout à fait. Il cherchait une histoire très représentative de la réalité. Il voulait que l'expérience sensorielle du spectateur soit extrêmement réaliste. Et il a gagné. C'est-à-dire la façon dont on voit les vaisseaux spatiaux à l'intérieur, à l'extérieur, la Terre, de jour, de nuit, les étoiles, le scaphandre, l'acoustique, les sons, le mouvement, c'est exactement comme dans le film. Et la petite anecdote, c'est que dans le film, on voit apparaître un Rubik's Cube. Je suis le seul astronaute qui a fait voler le Rubik's Cube dans l'espace.
Mais je sais.
Et je lui ai demandé, mais comment vous avez eu l'idée? Il m'a dit, j'ai voulu que l'intérieur des vaisseaux, les petits objets personnels, soient représentatifs de la réalité. J'ai visionné des milliers d'images sur Internet et j'ai vu vos photos avec le Rubik's Cube.
Qui se retrouve donc dans Gravity. Alors, on sait que le réalisateur de Gravity s'est entouré pour tourner ce film de pointure de la NASA. Il vous a demandé d'être son conseiller technique sur le film?
Alors, je ne l'ai pas rencontré avant le film. Alors, il a contacté l'ESA, on l'a aidé à traduire la version française. On a vérifié que l'ESA apparaissait parfois avec le bon logo, parce que Hubble, par exemple, c'est un programme en coopération entre l'ESA,
l'ESA, ce qu'est l'ESA.
ESA, European Space Agency, l'Agence Spatiale Européenne, est une agence internationale qui regroupe 22 pays européens, qui ne sont pas exactement les mêmes que ceux de l'Union Européenne, d'ailleurs,
ouais.
Et qui coopère avec la NASA sur certains programmes, dont le télescope spatial Hubble.
D'accord. Mais alors, Gravity, vous nous l'avez dit, c'est un film parfaitement réaliste, mais tout de même, il y a eu des libertés prises pour les besoins du scénario?
Ah oui. Alors, il y a deux choses. Il y a l'expérience sensorielle, c'est très réaliste. Par contre, le scénario, l'histoire, elle est très très simple pour que vous puissiez consacrer votre attention à l'expérience sensorielle. C'est un film catastrophe très linéaire où il y a plusieurs choses qui se sont déjà passés comme ça, comme le feu dans la station. Il y a eu un feu identique dans Mir.
Ouais, ouais.
Pareil. Il y a des phénomènes qui ne se sont pas passés dans l'espace, mais si ça devait se passer, ça se passerait comme dans le film. Et puis, il y a quelques déviations volontaires, mais très graves, des lois de la physique, pour le besoin du scénario.
Alors, puisque j'ai en face de moi un astronaute, j'en profite pour poser cette question qui me taraude. Est-ce que l'avenir et le destin de l'homme passent forcément par l'essaimage de l'humanité à très long terme sur d'autres planètes?
Alors, chacun a son idée, mais je le crois personnellement, parce que ce que j'ai ressenti dans l'espace, c'est que le corps humain s'adapte très bien, on se sent très vite bien. On mange bien, on travaille, on réfléchit toujours avec la même capacité intellectuelle, on dort bien. On a l'impression qu'on est fait pour nous adapter. Par contre, pour se réadapter sur Terre après le retour, ça prend beaucoup plus de temps. Mais la question que je me pose en regardant la Terre depuis l'espace, je la vois comme un vaisseau spatial avec un équipage qui est l'humanité, et puis les êtres vivants, les végétaux, les animaux. C'est très coloré. Alors, je vois pas les êtres vivants individuellement. Mais je me demande, le jour où la Terre devient invivable, on sait que dans 1 milliard d'années, la vie ne sera plus possible sur Terre. Elle sera devenue vraiment trop trop chaude, un peu comme
Vénus. Voilà, et dans 2,5 milliards d'ailleurs, le Soleil nous aura consumés.
Voilà, et est-ce que c'est important ou pas de se soucier de pérenniser le savoir, la sagesse qu'a pu faire progresser l'humanité en augmentant ses connaissances? Parce que la sagesse est liée à l'acquisition de connaissances. Souvent, les conflits, les guerres viennent de l'ignorance. Et moi, je pense que oui. Et je pense qu'on a l'intelligence aujourd'hui nous permettant de commencer à apprendre à vivre ailleurs que sur Terre. Mmh. Comme disait un écrivain américain, les dinosaures ont disparu parce qu'ils n'avaient pas de programme spatial. Nous, on a la chance d'être capable d'aller ailleurs. Donc on a le temps, mais si on commence jamais, on n'y arrivera jamais. Mais petit à petit, on peut y arriver. Je pense que dans quelques millions d'années, il n'y a pas d'urgence, on aura appris à vivre ailleurs et ça nous permettra de survivre en attendant de quitter le système solaire quand lui-même sera devenu globalement invivable. Et puis comme ça, on pourra peut-être rencontrer d'autres formes de vie ailleurs.
Alors, nos aïeux, dans l'Antiquité, rêvaient déjà du cosmos, n'est-ce pas ? Icare, dans la mythologie grecque, est le premier symbole de ce rêve. Mais plus près de nous, au XVIIe siècle, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que Cyrano de Bergerac, qui a bel et bien existé, a écrit des textes fascinants, bien avant Jules Verne, sur toutes les façons d'atteindre la Lune. Il avait imaginé quoi, Cyrano de Bergerac ?
Ouais, il y avait plusieurs techniques, mais souvent on utilisait les techniques qu'on observe dans la vie quotidienne. Et par exemple, utiliser la rosée. Vous utilisez la rosée du matin et quand elle s'évapore, vous vous évaporez avec la vapeur d'eau, des gouttelettes d'eau qui s'évaporent.
C'était un grand poète alors, ouais. Cyrano.
Mais il y a eu plein d'inventions, même par les plus anciens. Et bon, le plus récent, c'est Jules Verne
bien sûr.
Un canon.
Bien sûr.
Encore plus récent, Hergé avec une fusée où il avait quand même était bien aidé par des physiciens, parce qu'il y a très peu d'erreurs dans Tintin. La seule vraie erreur, c'est que c'est le même vaisseau spatial entier qui décolle de la Terre, se pose sur la Lune et revient. Ça, c'est pas possible. Par contre, il avait prévu la propulsion chimique pour s'élever, et puis une fois dans l'espace, utiliser la propulsion nucléaire pour maintenir une gravité apparente. Et c'est ce qu'on étudie aujourd'hui pour les missions futures, quand on sera capable de ce type de propulsion.
J'imagine qu'enfant, vous avez lu Jules Verne.
Oui,
et
bien
Tintin,
sûr.
Bien sûr. Mais alors, Jean-François Clairvoy, quel âge aviez-vous et que faisiez-vous la nuit du 20 au 21 juillet 1969 ?
Eh bien, c'était la nuit et au lieu de dormir, eh bien, j'étais devant la télé parce que mes parents m'avaient réveillé. Et je ne voyais pas cet événement comme une prouesse des Américains. Je le vivais spontanément à 11 ans comme dissemblable à ma famille, à moi, des humains sont capables de faire ça. Et je trouvais ça fascinant. Et en même temps, le professeur, j'étais au CM2 à l'école, nous disait, vous savez ce que vous observez en ce moment à la télévision, les hommes qui marchent sur la Lune, eh bien vous serez capable de le faire plus tard. Et donc, j'ai rêvé très tôt d'aller dans l'espace. Je ne rêvais pas d'être astronaute. Je ne rêvais pas de choisir le métier consistant à travailler dans l'espace. Mais très tôt, je rêvais que je voulais aller dans l'espace pour jouer, pour m'amuser, pour regarder la Terre flotter en apesanteur.
Alors, comme les images en direct, cette nuit-là ont été suivies par à peu près 800 millions de téléspectateurs, ça a forcément provoqué des vocations. D'ailleurs, on sait que à la rentrée de septembre 1969, il y a eu dans les lycées du monde entier un aiguillage radical vers les filières scientifiques. Seulement pour devenir astronaute, j'ai envie de dire qu'il faut à peu près le cerveau d'Einstein avec la forme physique de Rambo. Comme par exemple être docteur en biochimie ou en physique nucléaire tout en étant pilote de chasse. Mais si, en fait, quel est le cursus habituel, on va dire classique entre guillemets, pour devenir astronaute?
Alors, le cursus classique, il y a très longtemps au départ, on s'est posé la question, quel métier terrestre se rapproche le plus de ce qu'on demande à un astronaute, qui est un métier d'opérateur? Tous les astronautes sont des opérateurs, c'est-à-dire des personnes qui font marcher du matériel complexe, avec des interrupteurs, des commandes, en fonction d'informations sur un écran, sur un tableau de bord. Donc, on prenait des pilotes. Mais depuis 30 ans, on sélectionne parmi les scientifiques, vulcanologues, océanographes, vétérinaires, chirurgiens cardiaques, physiciens nucléaires, une japonaise et chirurgien cardiaque. Donc, ça n'est pas pour leur demander d'exercer ce métier dans l'espace, mais c'est parce qu'on s'est rendu compte que en diversifiant le profil des astronautes, eh bien, on enrichit leur capacité à innover quand il s'agit de trouver des solutions à des problèmes.
Mais il faut tout de même avoir une forme physique absolument éblouissante.
Il faut juste être en bonne forme. Mais on ne cherche pas des champions sportifs plus maintenant. À l'époque, on faisait des tests de torture un peu sur tous les astronautes. Mais aujourd'hui, on vous demande juste d'être naturellement sportif, comme j'espère que beaucoup de personnes qui nous écoutent le sont, pour entretenir leur corps physique. Et un astronaute sait spontanément qu'en pratiquant un peu sport régulièrement, pas forcément tous les jours, eh bien, il sera en forme, il minimise le risque d'attraper des maladies. Et puis, il est capable d'efforts importants au moment où il y en a besoin.
Mais tout de même à cela, il faut rajouter un mental d'aventurier et puis le sens du sacrifice. L'astronaute est un homme qui doit ignorer la peur.
Alors, l'astronaute, il ne doit pas vraiment ignorer la peur, il doit l'évacuer en ayant acquis la conviction qu'il se sortira de toutes les situations parce qu'il connaît par cœur son vaisseau. Il s'est entraîné à faire face à toutes les pannes possibles. Il sait que le risque est très élevé, mais il est quand même serein parce qu'il sait que tout a été vérifié. Donc l'astronaute, ce n'est pas un casse-cou, Mais le jour du décollage, on est quand même concentré. Parce que si on est comme dans le simulateur où il va y avoir une fuite d'air, une fuite de carburant, le feu à bord, le court-circuit, le manche de pilotage qui ne répond plus, il faut qu'on trouve la solution. Et je peux vous dire qu'à un mois du décollage, ouais, en tant qu'équipage, on est Superman. Les instructeurs peuvent nous inventer le scénario le plus tordu et vicieux, on s'en sort. Donc on construit en nous cette capacité qu'on s'en sortira quoi qu'il arrive.
J'ai 1000 questions à vous poser. On fait une très très courte interruption. On retrouve tout de suite mon invité cet après-midi, Jean-François Clairvoy.
Isabelle Morizet continue de vous accompagner avec Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, avec son invité Jean-François Clairvoy, et on s'intéresse cette fois-ci à la famille.
Jean-François Clairvoy, vous êtes astronaute, mais votre frère jumeau est psychiatre. Vous avez donc passé votre vie à rêver des confins de l'espace quand votre frère jumeau, lui, a exploré l'intime et l'intériorité en tant que psy. Alors ce sont des centres d'intérêt et des passions presque opposées, ou bien quelque part ça se rejoint?
Mon frère me dit souvent, alors on s'appelle Billy mutuellement. Hein.
Parce que je sais que les Américains à la NASA vous ont surnommé Billy Bob, n'est-ce pas Jean-François?
Oui.
C'était compliqué dans la bouche d'un Ricain.
Mais Billy me dit, toi c'est comment ça marche et moi c'est comment ça pense. Mais en fait, on a beaucoup de points communs parce qu'on a tous les deux tous nos brevets de parachutisme sportif. On a tous les deux pratiqué la plongée opérationnelle. On a notre brevet militaire de plongeur de bord de la Marine nationale. On a tous les deux fait de l'escalade. Mais on l'a jamais fait ensemble. Et notre rêve, c'est de sauter en parachute ensemble ou de faire... Alors si, on a fait de la plongée ensemble il y a quelques années à l'école de plongée. Donc on a quand même tous les deux le même goût de l'aventure et de la découverte, d'aller là où on n'est jamais allé.
Mais vous leviez un peu plus les yeux que votre frère jumeau. Par exemple, à 14 ans, vous avez découvert 2001, l'Odyssée de l'espace, que vous avez vu, paraît-il, 7 fois. Votre frère jumeau, à cette époque-là, partageait votre fascination, ou bien vous en parliez plutôt à votre père, qui était pilote de chasse?
Je crois que ce qui me caractérise par rapport à mon frère jumeau, c'est que j'étais fasciné très jeune, lorsque j'ai reçu en cadeau de Noël à 7 ou 8 ans, une voiture téléguidée. C'est-à-dire, je tourne un volant qui est dans ma main et à distance, au bout d'un câble, il y a une voiture, je lui fais faire ce que je voulais. J'étais fasciné par la capacité de l'homme de télécommander à distance des machines. Et ce que je voulais faire comme ingénieur, c'est télécommander des sondes interplanétaires qui partent à des milliards de kilomètres. Et c'est resté gravé en moi.
Alors vous avez donc, Jean-François Clairvoy, fait Polytechnique et après Supaéro à Toulouse. Vous êtes entré au CNES, l'agence spatiale française, en vous intéressant effectivement aux robots explorateurs de galaxies. Mais alors, quand a germé la possibilité effective de devenir astronaute?
J'ai pensé à devenir astronaute lorsque le CNES a lancé un appel à candidature. J'étais déjà au CNES depuis un an. Et puis, je disais à mes collègues, si un jour ils demandent des astronautes, je pense que c'est naturel que je candidate parce que j'ai goût de l'aventure, je suis parachutiste, je suis pilote privé, je tente le coup. Donc pour moi, c'était plus une expérience de vivre la sélection, le processus de sélection, sans être convaincu que j'irai jusqu'au bout. Mais je le voulais tellement fort qu'en fait, j'ai eu de la chance. À la fin, j'ai été sélectionné.
C'est pour vous entraîner à la Cité des Étoiles, près de Moscou. Vous avez appris à parler le russe.
Alors effectivement, j'ai été sélectionné dans la catégorie des astronautes français destinés à voler avec les Russes.
Ouais.
Et en fait, j'ai jamais décollé avec...
Il y a une catégorie spécifique
pour
ceux qui sont destinés à voler avec les Russes.
Voilà. Il y avait ce qu'on appelait les ingénieurs de bord. Donc avec Michel Tonini et Jean-Pierre Aigneret, on était en quelque sorte les pilotes, les opérationnels. Et puis il y avait les scientifiques purs, les médecins comme Claudie Aigneret et Jean-Jacques Favier, physiciens, sélectionnés a priori pour voler avec les Américains sur la navette spatiale américaine. Donc comme j'étais destiné à voler avec les Russes, j'ai fait 550 heures de russe en 2 mois et demi, 6 à 8 heures par jour, tous les jours. Et à la fin, je parlais russe couramment et je pouvais passer le bac langue vivante.
En russe.
J'aurais eu mention bien.
Jean-François Clairvoy, alors aucun entraînement au monde, même pour une section d'élite de l'armée, n'est aussi extrême et radical que l'entraînement d'un astronaute. D'ailleurs, tout à l'heure, au début de cette conversation, vous nous disiez qu'il y a encore une trentaine d'années, on torturait pratiquement les aspirants astronautes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément ce que doit endurer pendant sa formation celui ou celle qui aura peut-être la chance d'être l'élu?
Alors, pendant la sélection, j'ai subi plusieurs tests de torture. Donc, la centrifugeuse à 8G, 10G, une chambre d'altitude.
8G, 10G, c'est-à-dire 8 ou 10 fois le poids de notre
vous
corps.
Vous êtes assis sur le siège en pesant 10 fois votre poids. Vous vous sentez écrasé comme par une grosse armoire qui vous est tombée dessus. Et vous respirez comme quelqu'un qui allait qui arrive tout juste à respirer.
Il n'y a jamais de crise cardiaque pendant ce genre d'entraînement ?
Alors, on est suivi avec plein de capteurs pour vérifier que le corps se passe bien. Sinon, ils arrêtent tout de suite la centrifugeuse. Il y a la chambre d'altitude dans laquelle on fait le vide progressivement jusqu'à ce que vous tombiez dans les pommes. Il y a la table basculante.
Ah oui, ça ne s'arrête que lorsque vous tombez dans les pommes.
Oui, mais quand vous commencez à tourner l'œil, il y a un médecin à côté qui a un masque à oxygène, il vous le met sur la figure. Ça vous réveille. Il y a le tabouret tournant, c'est le test de vomissement. On vous fait tourner sur un tabouret à 30 tours minute et toutes les 5 secondes, il faut basculer la tête à droite, à gauche, devant, derrière.
Il paraît que vous avez réussi à savourer un gâteau au chocolat pendant ce test-là.
Oui, parce que je m'étais entraîné et j'avais réfléchi à la mécanique du principe qui fait que ça vous rend malade. Et en fait, j'arrivais à défier le test en contractant les muscles d'une façon différente de ce que voudrait normalement faire un candidat qui cherche à descendre la tête entre les jambes. Moi, je visais à droite. Enfin, tout ça pour résumer, j'avais trouvé une technique qui permettait de pas être malade. Et donc, pour montrer au médecin que je trichais pas, je mangeais un baba au rhum.
Et puis alors, il y a, paraît-il, dans cette formation d'astronaute, les stages de survie par moins 40 degrés, des stages dans des grottes souterraines, dans des habitats sous-marins.
Alors voilà, une fois qu'on est sélectionné, on ne fait quasiment plus les tests durs de la sélection. Peut-être un ou deux tours de centrifugeuse pour garder le sens des sensations au décollage. Par contre, pour souder l'équipage, lorsqu'il est nommé à une mission, on l'envoie maintenant dans des stages survie où le risque physique est réel. Donc les grands lacs froids canadiens par moins 40 degrés l'hiver, l'Utah par plus 40 degrés l'été où il faut marcher sur des chemins escarpés avec des centaines de mètres de ravins à côté, il faut aller en haut pour trouver sa nourriture et l'eau, dans des habitats sous-marins par 18 mètres de fond.
Alors vous voyez que j'avais raison tout à l'heure de vous dire qu'il fallait avoir la forme physique de Rambo
en même temps
que le cerveau d'Einstein.
Mais ça fait pas mal, et si vous avez un peu le goût d'aventure, si vous êtes déjà quelqu'un qui aime bien partir en voyage, explorer des contrées naturelles merveilleuses, des montagnes, des grands déserts, etc. C'est fantastique. En fait, vous faites ça, vous faites plaisir en faisant ça.
Alors, on parle de torture, mais est-ce qu'il est vrai, par exemple, Jean-François Clairvoyt, que certains astronautes, alors une fois que donc ils ont été choisis, au nom de la recherche scientifique, décollent par exemple avec un cathéter enfoui jusqu'au cœur ou bien un tube à l'intérieur de l'œsophage ?
Alors, effectivement, on n'a pas le droit d'imposer à un astronaute d'être sujet d'une expérience médicale. Les lois imposent, pour des raisons éthiques, que tout sujet d'expérience médicale doit être consentant. Bon, mais ça la fout mal quand même qu'un astronaute dise
« Parfois, c'est
moi,
détourné.
J'ai pas envie que vous me mettiez des sondes un peu partout. » Alors, j'ai de la chance, j'ai été sujet cobaye de beaucoup d'expériences médicales, mais sans être équipé de sondes invasives pendant le lancement ou la rentrée. Mais j'ai des collègues, effectivement, qui ont eu des sondes pour mesurer le pH dans l'estomac, pour mesurer le fonctionnement du système digestif, mais par l'autre orifice. D'autres avec des encéphalogènes sur le cerveau, des sondes qui passent par le nez.
Et donc tout ça à supporter pendant un vol spatial qui peut
pendant
durer...
Pendant le décollage. Oui, oui. Mais on sert la science. Donc on fait avancer la connaissance et on aide les chercheurs à trouver des remèdes à des maladies.
Jean-François Clairvoyt, en août 92, vous avez pris l'avion pour Houston, aux États-Unis, direction la NASA, afin d'obtenir votre qualification de spécialiste de mission pour la navette spatiale. Alors, qu'est-ce que Billy Bob a appris dans les simulateurs de la NASA pour faire face au scénario catastrophe façon Gravity ? Là, on vous a enseigné des choses tout à fait particulières.
Alors, d'abord, on apprend comment fonctionne le vaisseau, comment fonctionne la navette spatiale. Il y a 1000 interrupteurs dans le cockpit. Même 15 ans après mon troisième vol spatial, je peux vous dire le nom de chaque interrupteur et vous dire à quoi il sert, tellement je m'en suis imbibé jusqu'à la moelle. Donc, apprendre comment fonctionne le vaisseau. Après, pratiquer des phases de mission. Et pendant qu'on pratique ces phases de mission, les instructeurs injectent des pannes derrière. Il faut trouver la solution. Il faut identifier qu'est-ce que j'ai comme panne quand ça sonne très fort. Est-ce que c'est une panne qui en cache une autre ou pas? Une fois qu'on a réglé la panne, quelle est la pire des pannes qui peut me tomber dessus maintenant compte tenu de tout ce que j'ai accumulé comme panne depuis le début? Et à la fin, on pense panne. On sait qu'on va avoir des pannes et on sait qu'on va pouvoir s'en sortir. Donc nous sommes formatés à être des problem solvers, comme on dit en anglais, un peu comme le film Seul sur Mars.
Voilà.
Quand il y a un problème, la première chose qui nous vient à l'idée, c'est où est la solution?
Alors, je parlais des simulateurs de la NASA, mais arrive enfin le grand jour. Le jour où, engoncé dans la fameuse combinaison orange d'astronautes, eh bien vous avancez vers la navette Atlantis qui vous attend sur le pas de tir. Jean-François Clairvoyt, être dans une fusée qui décolle, c'est comme être assis sur une bombe.
Oui.
Bon, vous avez réussi à dormir la nuit qui a précédé votre premier vol dans l'espace ?
Eh bien écoutez, le soir, dans les quartiers de quarantaine, il passait un film qui s'était Lost in Space, juste par hasard.
Sur
si, j'ai regardé Perdu dans l'espace.
Ils sont pervers.
J'avais installé des coussins sous le matelas pour dormir légèrement la tête inclinée, plus bas que mes pieds, parce que ça préparait mon corps à avoir un afflux de sang vers le haut du corps. Parce que quand vous arrivez dans l'espace, le cœur qui continue à irriguer le cerveau en envoyant du sang vers le haut du corps, il le fait par excès. On a la tête bouffie, comme vous voyez sur les photos, et ça peut donner un peu la migraine à certains astronautes. Donc des collègues m'avaient dit, mais écoute, fais comme on fait avec les tests qu'on fait sur des gens qui restent alités pendant 3 mois, la tête légèrement en bas. Donc j'ai dormi pendant quelques jours avant mon premier décollage, la tête plus bas que mes pieds. Ça m'a préparé au vol spatial. J'ai regardé Lost in Space et j'ai très bien dormi parce que je me sentais prêt. J'avais l'impression que j'étais prêt, l'équipage était prêt. C'était normal dans ma vie à ce moment-là de faire ça parce que ça fait plusieurs mois que je me le suis figuré dans ma tête et j'étais heureux.
On retrouve tout de suite mon invité cet après-midi, l'astronaute Jean-François Clairvoyt.
Nous sommes en compagnie d'Isabelle Morizet et de l'astronaute Jean-François Clairvoyt.
Alors Jean-François Clairvoyt, on vient de vous quitter sur le pas de tir de la navette spatiale Atlantis à Houston. Vous êtes sanglé sur votre siège. La mise à feu a lieu, on dit l'allumage, hein, plutôt l'allumage a lieu. Voilà. Le vaisseau qui pèse 2000 tonnes s'arrache à la côte de Floride. Au bout de 8 minutes et 32 secondes, vous êtes écrasé sur votre siège à 28 000 km/h. Et puis soudain, vous entrez dans un monde d'apesanteur, vous allez assister, paraît-il, ça m'a absolument fasciné d'apprendre ça, 17 fois par jour à un coucher de soleil, puisque vous faites 17 fois par jour le tour de la Terre. Mais pour vivre tout ça, il faut en accepter les risques. Il paraît que, vous allez nous dire si c'est vrai, toujours en 2016, dans un vol spatial, il y a 100 000 fois plus de risques de mourir que dans un avion.
Oui, en fait, un astronaute sait qu'il a une chance sur 100 d'y laisser sa peau, dans une mission spatiale. Pourquoi ? Parce que l'énergie mise en jeu est considérable. La puissance des moteurs 2 minutes après le décollage, dans le cas de la navette spatiale américaine, c'est 45 gigawatts. Si vous pouviez convertir en électricité l'intégralité de cette puissance,
ouais,
on pourrait satisfaire la demande de la France entière en électricité, tout client confondu, les TGV, les usines, les particuliers. Donc vous voyez, c'est colossal. Et il faut canaliser cette énergie pour obtenir cette vitesse en très peu de temps. Voilà, c'est la mission de tout lanceur, que ce soit Ariane 5 ou la navette spatiale américaine. Traverser les nuages très rapidement verticalement et dès qu'on a dépassé l'atmosphère, incliner la trajectoire pour nous lâcher à l'horizontale avec cette vitesse de 28 000 km/h.
Alors, la première station de légende de la conquête spatiale, c'est Mir. Mir qui était comme une maison de l'espace, avec ses labyrinthes, ses cabines, ses ordinateurs, son matériel médical et puis même sa salle de sport. En 97, Jean-François Clairvoyt, vous êtes parti en mission pour la ravitailler, cette station Mir. Qu'est-ce que vous leur avez amené ?
Ah, c'est une mission émouvante parce qu'ils venaient de connaître un feu presque catastrophique, comme dans le film Gravity.
Ouais.
Leur système de régulation thermique qui gérait l'humidité était en panne. Il y avait 100% d'humidité. Ça sentait la cave à vin dans la station Mir. Moi, j'aime bien dire la cave à vin plutôt que les moisissures. Ils avaient besoin de pièces de rechange. Ils avaient besoin de nourriture, des vêtements. Et puis, on a aussi échangé à l'occasion un membre d'équipage. On a ramené un Américain qui était là depuis 4 mois et on a déposé un Américain. Et j'étais très jaloux parce que je savais que lui...
Vous auriez aimé être celui qui allait rester dormir ?
Oui, parce qu'une dizaine de jours, je trouvais ça trop court pour vivre complètement l'expérience extraterrestre que l'on vit quand on est dans l'espace. Parce qu'on
Par exemple, quelle est l'émotion qu'on ressent quand s'ouvre le sas de connexion entre la navette et la station, alors qu'on est perdu comme ça dans le cosmos, perdu, j'entends.
Vous savez, on ouvre... Alors, quand les deux vaisseaux s'accostent, on enferme un petit volume dans lequel il y a le vide. Donc, il faut mettre de l'air entre la porte de la navette et la porte côté Mir. Après, on ouvre les portes, et quand on voit leur regard et leur sourire... On arrive avec des cadeaux. Ils nous avaient dit la veille, on s'était téléphoné.
Oui.
Qu'est-ce que vous voulez ? Ah ben on n'a plus de thé. Voilà, on leur avait préparé des sachets de thé, tout chaud, tout préparé. On leur a donné, on s'est embrassé.
Mais vous, il paraît que vous leur avez amené du foie gras et puis même du confit de canard au cèpe.
Oui, confit de canard à la sauce bordelaise au cèpe.
Ils étaient au courant à la NASA ?
Oui, c'est autorisé. J'ai amené du fromage de chèvre fabriqué par ma sœur aussi. Et j'ai organisé un repas international à bord qui est un très grand moment, un très grand souvenir pour moi.
Un festin spatial. Et alors, vous nous parlez donc du fromage fabriqué par votre sœur. Bien évidemment, vous êtes régalé de tout ça avec le fameux pain de la NASA, n'est-ce pas, qui ne fait pas de miettes. Parce que les miettes, dans un vaisseau spatial, ça peut provoquer un drame.
En fait, quelle que soit la nourriture que l'on consomme, elle ne doit pas faire de particules qui flottent en apesanteur. Ça peut aller boucher les filtres, se mettre dans les contacts électriques, etc. Donc tous les plats sont des plats en sauce. La sauce sert de colle qui relie les ingrédients entre eux. Et le pain, les tortillas mexicaines, quand vous les découpez, il n'y a pas de miettes.
Il n'y a pas mieux que la tortilla.
Je me suis fait des sandwichs de foie gras avec des tortillas mexicaines.
Alors, dans un vaisseau spatial, donc, l'objet le plus anodin est fixé avec un velcro, n'est-ce pas, pour ne pas s'éloigner comme ça doucement en apesanteur. Un astronaute a toujours, dans un vaisseau, a toujours sur lui du velcro ?
Oui. Un astronaute a toujours sur lui des pastilles de velcro qui collera là où il faudra qu'il dépose un objet. Et puis aussi du scotch. Voilà, les deux outils principaux de l'astronaute, c'est le gros gaffeur gris, le gros scotch puissant et les bandes de velcro.
Alors Jean-François Clairvoy, le 18 décembre 99, on y arrive, vous décollez à bord de Discovery car vous êtes choisi par la NASA pour aller capturer donc à la vitesse de 28 000 km/h le fameux télescope Hubble d'une valeur de 6 milliards de dollars. Télescope grâce auquel on sait désormais que l'univers a 13,7 milliards d'années et télescope qui rend l'âme dans l'obscurité du cosmos. On est vraiment là dans le scénario de Gravity. Vous étiez donc à ce moment-là, Jean-François Clairvoy, l'être humain le plus apte, le plus habilité selon la NASA à réussir ce genre d'exploit improbable.
Il se trouve que naturellement, sans avoir fait quoi que ce soit de précis pour ça, je suis bien câblé pour piloter un bras robotique. Donc le bras de la navette, c'est comme un bras humain, il fait 15 mètres de long, il y a une épaule, un coude, un poignet. Il est à l'extérieur, moi je suis à l'intérieur, j'ai deux manches de pilotage et je pilote ce bras comme si c'était un troisième bras attaché à mon corps. Donc sans réfléchir, je capture Hubble, je le fixe dans un berceau dans la soute.
Oui mais attendez, vous dites je capture Hubble. Hubble, il pèse 10 tonnes, alors, Hubble il fait plus de 11 mètres de long et Hubble, il paraît qu'il a fallu que vous le placiez au centimètre près dans un berceau qui était prévu pour ça par Discovery. Et c'est, en fait, il a fallu le retourner, tout ça dans le cosmos, tout ça à 28 000 km/h. Là, c'est comme si vous nous disiez, je prends ma tasse de café, je la déplace de 5 cm.
Il faut d'abord que le commandant de bord approche la navette spatiale Discovery assez proche du télescope pour que le télescope soit à la portée du bras robotique. Mais après, quand vous prenez un verre posé sur une table, vous réfléchissez pas à comment vous contractez les muscles de votre bras, de votre avant-bras, de vos doigts pour prendre le verre. Dans l'espace, c'est juste que le verre, il est en train de flotter, de dériver. Donc avec le bras robotique, il faut piloter le bras de façon à le capturer en le suivant dans son mouvement. Et pour moi, c'était devenu une opération naturelle. Et ça m'a permis donc d'être affecté à cette mission un peu plus tôt que prévu, parce que j'aurais dû être affecté à une mission un an plus tard. Et c'est une très très belle mission. Je peux vous dire que quand vous capturez Hubble, vous appelez Houston. Houston, ici Discovery. We have captured. We captured the Hubble. Et ça, c'est un grand moment parce que à partir de ce moment-là, le travail de réparation peut commencer. Si j'avais échoué à la capture, la mission était foutue.
Et la mission, vous l'avez réussi, ce qui fait que pendant 3 jours après votre capture, vos collègues en scaphandre, que d'ailleurs vous pilotiez, n'est-ce pas, avec un bras robotisé autour du télescope, se sont chargés de la réparation. Est-ce que vous, Jean-François Clairvoy, vous êtes déjà sorti en scaphandre dans l'espace? Ces scaphandres d'aujourd'hui qui ne sont plus du tout reliés au vaisseau spatial et avec lesquels, par exemple, par mégarde, on peut se perdre dans l'infini.
Alors, sur ce vol, je collais mon nez parfois au hublot, j'avais l'impression d'être dehors avec eux. Mais j'étais pas entraîné sur ce vol à sortir, c'était sur mon vol précédent, où j'avais un scaphandre à bord du vaisseau et je m'étais entraîné dans des chambres à vide, dans des pièces dans lesquelles on retire l'air pour avoir confiance dans mon propre scaphandre. Je m'étais entraîné à sortir dehors pour dévisser à la main 96 boulons du système d'accostage de la navette à la station Mir, parce que si de l'intérieur je ne pouvais pas commander l'ouverture des verrous, eh bien le seul moyen de se séparer de la station Mir, c'était de sortir en scaphandre avec une dévisseuse électrique.
Jean-François Clairvoy, maintenant qu'il n'y a plus de cordon ombilical, donc qui relie les scaphandres au vaisseau spatial, quels sont les systèmes embarqués dans ces scaphandres autonomes ?
Alors en fait, on demande quand même à l'astronaute de s'attacher à un câble. Il n'est plus aussi indispensable qu'avant, mais c'est pour éviter qu'il dérive. Mais si jamais il dérive, il peut s'en sortir tout seul parce que maintenant le scaphandre américain est équipé d'un mini-scooter intégré. Donc un astronaute qui
dérive... Comme dans Gravity, ce que l'on voyait.
Alors, pas le gros scaphandre. Celui-là, on l'utilise plus. Ni les Russes, ni les Américains, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était trop compliqué à mettre en œuvre. Mais si un astronaute dérive de la Station Spatiale Internationale, elle n'est pas assez manœuvrante pour rattraper l'astronaute, contrairement à la navette spatiale qui est assez petite. Donc l'astronaute peut sortir du côté de son scaphandre un petit manche de pilotage et il a assez de réserve de propulsion pour se tourner vers la station et donner une petite impulsion vers la station pour la rejoindre. Donc un astronaute maintenant peut se sauver tout seul si par mégarde le câble de sécurité se détache ou se brise.
Mais pour l'instant, tous les cosmonautes ou astronautes qui se promènent en scaphandre autonome dans le vide spatial ont réussi à réintégrer leur vaisseau.
On n'a jamais perdu un astronaute ou une astronaute dans l'espace depuis l'histoire des vols habités. Les 4 accidents mortels qu'on a connus, deux côtés russes, deux côtés américains, ce n'est que dans la partie atmosphérique. Quand il y a cette débauche d'énergie dont on parlait à la montée ou à la rentrée. Parce qu'à la rentrée, il faut perdre toute cette énergie qu'on a acquise au début. Ouais. Donc c'est aussi critique. Mais dans l'espace, on a connu les pires catastrophes. L'explosion dans Apollo 13, le feu presque catastrophique dans Mir, une dépressurisation où ils ont perdu un tiers de l'atmosphère aussi dans la station Mir. À chaque fois, les astronautes ont réussi à s'en sortir parce qu'ils sont formatés pour ça.
On retrouve tout de suite mon invité, l'astronaute Jean-François Clairvoy.
Très bon week-end, bon dimanche, bel été à l'écoute d'Europe 1. Nous retrouvons tout de suite Isabelle Morizet avec son invité, l'astronaute Jean-François Clairvoy sur Europe 1.
Jean-François Clairvoy, en quel dieu croit-on quand on observe la Terre depuis une navette spatiale ?
Écoutez, je ne crois pas qu'un astronaute change de religion ou de croyance, mais on se pose la question, comment cette Terre a pu être créée aussi belle, magnifique, contrastée de couleurs, de vie, de mouvements naturels, tectoniques, climatiques, spectaculaires. On tombe amoureux de la planète et on a l'impression que cette magie n'est pas par hasard, mais on n'a pas la réponse. Mais comment la nature a pu créer cette planète aussi belle et aussi...
Donc on peut décoller athée et finalement, à l'intérieur du vaisseau spatial, se mettre soudain à croire en une force supérieure.
Oui, au moins se poser la question et se dire peut-être qu'il y a quelque chose de supérieur qui nous dépasse, qui a voulu ça.
Vous dites d'ailleurs, si tous les terriens volaient dans l'espace, ils verraient combien la planète Terre surpasse en beauté tout ce que l'homme a jamais pu imaginer. Donc, pensez-vous que si tous les terriens volaient dans l'espace, par exemple, il n'y aurait plus de guerre au nom de toutes ces idéologies qui polluent leur mental ?
Tous les astronautes en sont convaincus. Tous les astronautes pensent que la vue de la Terre depuis l'espace donne l'impression que nous sommes tous membre d'un même équipage du vaisseau spatial naturel Terre. Mmh. Et que, comme on ne voit pas les frontières, on ne voit pas les conflits, sauf si on prend les jumelles, peut-être qu'on voit là où il y a des bases militaires ou pas. Mais spontanément, on la voit comme un être qui est merveilleux. On a envie de la chérir. On a envie que tous les humains oublient leur objectif personnel et égoïste, mais tout se tourne vers la protection de ce magnifique vaisseau naturel que constitue notre planète.
En 84, le président Reagan a invité les alliés des États-Unis à participer au programme d'une station spatiale orbitale internationale. Et en 93, après la dislocation de l'Union soviétique, la Russie est devenue partenaire de ce projet, ce qui a donné naissance, avec 15 États impliqués, à la station spatiale internationale ISS. Il n'y a plus de guerre des étoiles, Jean-François Clairvoy. Alors, fini la guerre des étoiles.
Il y a la guerre commerciale dans le monde des satellites d'applications, télécom, GPS, etc. Mais dans le domaine de l'exploration, qui ne sont juste que des missions de quête de connaissances, c'est une coopération très fraternelle à l'échelle de la planète. Et la Station Spatiale Internationale est habité en permanence depuis 15 ans et il n'y a pas eu une seule influence à bord dans les relations entre les astronautes et puis entre les chefs de programme qui gèrent depuis le sol des conflits terrestres, militaires, de l'histoire de l'Ukraine, etc. Donc c'est un merveilleux programme dans ce sens parce qu'on se rend compte que l'espace peut être un des facteurs unifiant l'humanité.
Mais par exemple, pour aller sur Mars, il n'y a pas une grande puissance qui travaillerait en cachette des autres ?
Bon, je pense que les grandes puissances classiques, la Russie, les États-Unis, la Chine, rêverait d'être la première grande puissance à l'avoir fait.
À planter le drapeau du pays.
Mais il y a une association de 14 agences spatiales mondiales, dont coréens, chinois, japonais, européens, russes, qui se réunit plusieurs fois par an au sein de cette cette International Space Exploration Coordination Group. Ouais. Donc c'est une association qui réfléchit ensemble comment pourrait-on ensemble aller vers Mars, quelle serait la meilleure façon de se partager les tâches et de quelle façon y aller ensemble. Donc il y a déjà une très très bonne intention par toutes les agences spatiales pour penser à l'avenir de l'homme sur Mars.
C'est rassurant. Est-ce qu'il existe un droit juridique du ciel ? Est-ce qu'il, par exemple, est-ce que le premier pays qui plante son drapeau sur une planète en devient propriétaire ?
Oui, il y a un traité qui date de plus de 50 ans et qui définit l'espace extra-atmosphérique comme un lieu d'activité qui doit rester exclusivement pacifique et au service de l'humanité.
Alors, Jean-François Clairvoyt, sur le plan de la technologie pure, est-ce que l'homme est au point pour partir explorer Mars, mais surtout en revenir aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on n'est pas prêt.
Vous nous avez parlé tout à l'heure de 2040, 2050 ?
Voilà. Aujourd'hui, on sait ce qu'il faut faire pour être capable, dans les 30 années qui viennent, d'amener des humains sur Mars.
Mais que ne sait-on pas encore faire ? Pourquoi n'est-on pas encore prêt ?
Alors, par exemple, on ne sait pas protéger les équipages des rayons cosmiques. Et d'ailleurs, les rayons cosmiques, on sait qu'il y en a, mais ils ne sont pas encore bien caractérisés. Donc, il faut continuer à bien les étudier pour savoir à quoi ça ressemble exactement, pour savoir comment s'en protéger. Par ailleurs, on ne sait pas rentrer sur Mars, dans l'atmosphère martienne, avec un véhicule qui fait 15 ou 20 tonnes. On sait poser un robot qui fait jusqu'à environ une tonne maximum, mais au-delà, on n'a pas les solutions. Mais on sait ce qu'il faut faire pour trouver ces solutions dans les décennies qui viennent. Donc on ira sur Mars, mais aujourd'hui, on n'est pas prêt.
Il faut en théorie 8 mois, n'est-ce pas, pour atteindre la planète Mars ?
Alors, si on lance tous les 2 ans et 2 mois, quand il y a une conjonction de position de planète Terre-Mars autour du Soleil favorable...
Oui, parce qu'il faut la conjonction de planète, voilà.
Il faut en moyenne 8 mois.
Voilà. Un retour d'urgence en plein vol sera impossible. Et il faudra fabriquer sur place, à partir des ressources de Mars, le carburant qui permettra de redécoller. Alors, en l'état... Est-ce que les chances de revenir sur Terre des premiers hommes qui iront sur Mars sont non négligeables ou bien est-ce que ça relève carrément du sacrifice ?
Ce qui est très probable, c'est qu'avant d'envoyer des humains sur Mars, on aura probablement en coopération internationale réalisé des missions de retour automatique d'échantillons martiens. On se sera déjà démontré à nous-mêmes qu'on est capable d'amener un atterrisseur capable de redécoller avec des pierres martiennes et de les ramener sur Terre. Après, avant d'envoyer des humains, on aura déjà envoyé sur Mars les vaisseaux qui leur serviront de retour en les ayant testés. Donc des humains ne partiront sur Mars que si on se sera prouvé à nous-mêmes, les agences spatiales, qu'on a déjà sur place un vaisseau capable de décoller et de ramener des humains vers Mars.
Le 3 juin 2010, 3 Russes, un Italien, un Français et un Chinois, n'est-ce pas, ont été enfermés dans un simulateur de mission martienne à Moscou. 17 mois plus tard, donc le 4 novembre 2011, ils sont sortis du simulateur. Elle s'est déroulée comment, cette mission ?
Très bien. C'est la première fois qu'on réussit, avec succès quasiment total, un confinement, un isolement d'un équipage simulant une expédition martienne. Alors, c'est pas encore la simulation dans toutes les conditions, parce qu'ils savent que derrière le mur, il y a des gens qui les observent et qui peuvent les aider s'ils ont un gros pépin. Mais ce que ça montre, c'est qu'on a bien défini les critères de sélection. On les a bien appliqués pour sélectionner les bonnes personnes, on les a bien entraînés pour les préparer et on les a bien soutenus à distance avec même le retard de 15-20 minutes de délai de transmission radio pour qu'à la fin, ils sortent avec le sourire en ayant accompli toutes leurs tâches. Il y a eu quelques petites tensions mais qui ont été très très vite gérées parce qu'il y avait un très bon leadership à la fois au sein de l'équipage et au sein de l'équipe support terrestre qui leur apportait leur soutien à distance avec le délai hein, qu'on connaît bien. Quand il y a comme ça 500 millions de kilomètres, bah, vous parlez au micro et ça arrive à leurs oreilles que 15 minutes plus tard.
On retrouve tout de suite l'astronaute Jean-François Clairvoyt.
Suite et fin d'Il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet et son invité Jean-François Clairvoyt.
Jean-François Clairvoyt, si je vous demande quelle est la principale qualité que doit posséder une femme d'astronaute, est-ce que vous allez me répondre la capacité à admettre qu'elle n'est pas la première passion de son mari ?
Je pense que c'est la première qualité, c'est s'approprier à sa façon la mission pour avoir l'impression d'en faire partie. Même si physiquement Elle n'est pas à bord de la fusée. Il faut qu'elle s'y intéresse et qu'elle ait l'impression que je l'emmène un peu avec moi.
J'imagine que vous avez des enfants qui sont grands. Est-ce que vous êtes parvenu à les entraîner vers les étoiles ?
Écoutez, mes enfants sont nés, j'étais déjà astronaute. Pour eux, c'était un métier normal. Parce que... Et quand on est revenu en France, après mon troisième vol spatial, c'était marrant parce qu'à l'école, ils ne voulaient pas croire, mon fils, que son père était astronaute. Et puis, comme mon fils parlait surtout anglais, il tutoyait la maîtresse. Ça choquait tout le monde. Parce que you, ça veut dire tuez-vous en anglais.
C'est votre petit garçon qui, un jour, sachant que vous étiez dans une fusée qui allait disparaître comme ça derrière les nuages, a glissé à l'oreille de sa maman, donc votre épouse, ça y est, maintenant, papa est une étoile.
Est devenu une étoile, oui. Et il se demandait si j'allais revenir. Eh bien, il a fait des études d'astronautique. Donc, il a son master en Space Technology et Planetary Exploration. Mais maintenant, il s'intéresse aux relations internationales. Donc, je ne sais pas s'il sera dans la technique ou dans l'international, mais il a certainement subi une forme d'influence, alors que ma fille est plutôt dans le commerce et le management.
Alors, vous nous racontiez tout à l'heure l'incroyable mission au cours de laquelle vous avez réussi à capturer le télescope Hubble en panne dans le cosmos, depuis la navette Discovery qui vole à 28 000 km/h, j'adore répéter ça, mais quand on revient sur Terre, Jean-François Clairvoy, la vie terrestre doit paraître bien terne.
Alors, tout de suite, on se sent très très lourd et on n'a pas le sens de l'équilibre. On ne peut pas marcher les yeux fermés.
Avant de parler des états d'âme, voilà. Parlons du physique.
Voilà, physiquement, c'est la première sensation et ça vous prend tellement que vous pensez à rien d'autre. Vous avez envie tout de suite de vous ressentir bien et être capable de faire du vélo, de conduire. Et on a tendance constamment à se retourner derrière soi, au sens figuré du terme, pour penser à tout ce qu'on vient de vivre. On est heureux parce qu'on a atteint l'objectif, on a réussi la mission. Tout de suite, on a envie de récupérer les photos pour les partager avec la famille et les amis. C'est la première chose qu'on fait. On va vers le labo photo. À l'époque, c'était de l'argentique, c'était pas encore le numérique. Mmh. Et on sélectionne les photos qu'on va partager. Et donc, on est concentré pour rédiger aussi le compte-rendu de vol, etc. Mais il faut très vite penser à ce qu'on va faire après. Sinon, on peut se trouver devant un vide. Et maintenant, quoi ? Donc, c'est pas facile. C'est pas facile, mais beaucoup comme moi se sentent le devoir. J'ai la chance d'avoir vécu ça. Mon devoir, c'est de le partager.
Alors,
comme avec vos auditeurs maintenant.
Voilà, aujourd'hui, Jean-François Clairvoy, vous ne volez plus, mais vous volez presque par procuration au travers de Thomas Pesquet, 10e astronaute français, que vous avez sélectionné d'ailleurs parmi 200 candidats et qui partira en novembre pour la Station Spatiale Internationale. Pour quel genre de mission, vous seriez prêt à repartir dans l'espace ?
Toutes les missions.
Toutes !
Voilà, vous m'envoyez dans une mission juste pour nettoyer les toilettes, faire à manger pour l'équipage, je pars. Que ce soit la Lune, Mars, l'espace interplanétaire, c'est une expérience qui est absolument inouïe. Et il faut quand même que je revienne un jour. Hein. Je suis pas de ceux qui sont prêts à partir en aller simple, parce que je trouve que éthiquement, c'est pas le moment. Un jour... Peut-être qu'il faudra partir en aller simple quand la Terre deviendra inhabitable. Mais je pense que notre devoir, c'est un devoir d'éclaireur, de témoin, partir, revenir et d'expliquer. Mais voir la Terre, mon fantasme d'astronaute aujourd'hui,
oui,
c'est revoler dans l'espace suffisamment longtemps pour continuer à apprendre la Terre par cœur. Je suis jaloux de mes collègues qui ont volé plusieurs fois 6 mois dans l'espace, suffisamment en tout cas pour que vous leur montrez une photo de n'importe quel endroit sur Terre, sans nuages, hein, évidemment, ils vous disent où ça se trouve et comment ça s'appelle. Ils connaissent par cœur la Terre visuellement.
Vous allez revoler. Bon, l'aventure spatiale de l'humanité ne fait que commencer. Mais est-ce qu'on a une petite idée des épisodes qui nous attendent là, dans le siècle, le 21e, ou même pas tellement tout cela va à une vitesse exponentielle ?
Sur le plan des vols habités, au milieu du siècle, des humains, des hommes et des femmes auront marché sur Mars. Et
ça,
j'espère être encore en vie pour le vivre parce que ça va être fantastique. Ça va être vraiment une nouvelle ère. Jamais dans l'histoire de l'humanité, des humains n'ont plus vu la Terre, n'ont plus pu parler avec la Terre, n'ont plus pu revenir en cas d'urgence. Depuis l'espace de la Lune, c'est 2-3 jours. De l'ISS, de la station spatiale, c'est en quelques heures. Vous êtes sur Terre si vous décidez maintenant. Ceux qui partiront vers Mars, ils seront envoyés pour de bon, sans retour possible pendant plusieurs mois. Donc ce sera vraiment nouveau. Ils ne verront plus la Terre. Ils verront, quand ils regarderont dehors, il y aura pendant des semaines et des semaines le soleil et le reste noir d'encre. Sauf s'ils regardent à l'opposé du soleil, ils verront
quel
les étoiles.
Quel mental il faut
donc
posséder faudra, pour pouvoir affronter ça.
Mais sinon, dans plusieurs siècles, on peut imaginer des stations orbitales ou au point de Lagrange, qui sont des points un peu particuliers, un peu plus loin que la Lune, où il y aura des grandes stations avec des vraies villes de l'espace. Donc on peut imaginer, et puis à très long terme aussi, des ascenseurs spatiaux. C'est-à-dire des façons d'aller dans l'espace et de vivre dans l'espace qui sont encore vraiment qui est encore de la science-fiction aujourd'hui par rapport aux vols habités d'aujourd'hui.
Jean-François Clairvoy, est-ce qu'il est vrai que sur Virgin Galactic, on peut acheter en tant que touriste son billet pour l'espace pour la somme de 200 000 euros ?
Oui, on peut, pour faire un vol d'environ 5 minutes dans l'espace, mais c'est le vrai espace. Il y a 2 ou 3 autres sociétés qui font la même chose. Une autre forme de tourisme spatial, bientôt, ce sera de monter en ballon stratosphérique à 35 km. C'est pas aussi haut, mais la perception visuelle sera la même. Et puis, à une échelle beaucoup plus basse, comme les vols paraboliques 0G que je vends, on vous fait connaître l'impesanteur, la vraie impesanteur, mais vous n'avez pas la vue de la Terre. Pour ça, il faut monter très haut.
Mais alors, j'ai entendu parler de vols, en fait, qui coûtaient aux touristes en question potentiels 40 millions de dollars.
Voilà, l'échelle. Pour 5000 euros, vous vivez l'impesanteur en avion. Pour environ 100 000 euros, vous payez une heure dans la stratosphère avec la même vue de la Terre que si vous étiez dans l'espace. Pour 200 000 euros, c'est un vol de 5 minutes. Et pour environ 40 millions de dollars ou de 30 millions d'euros, là, vous êtes une semaine dans la station spatiale en orbite terrestre.
Alors, juste avant de nous quitter, Jean-François Clairvoy, parce que c'est trop court, une heure avec vous. Mais bon, j'aimerais savoir, elle ressemble à quoi ? Et elle promet quelle performance, la montre spatiale de poignet que vous avez inventée et malicieusement baptisée Speedmaster Skywalker X-33.
Bah écoutez, j'ai inventé
Montrez-moi votre poignet, vous la portez ou pas ?
Voilà, oui, bien sûr.
Bon, alors,
et quand je l'ai offert à Thomas Pesquet, la première chose qu'il a...
Le dixième astronaute français.
Voilà, le dixième astronaute français qui décolle en orbite. La première chose qu'il a faite, c'est utiliser la fonction la plus innovante de cette fonction, qui est toute bête de cette montre, c'est vous rentrez une date à la seconde près, une date qui peut être le passage à l'an 2100. Hein. Si on l'a vu avant l'an 2000, elle aurait été vendue en millions d'exemplaires. Vous rentrez une date comme votre date d'anniversaire. La montre, spontanément, qui sait quelle heure il est, parce que c'est quand même sa fonction principale, vous affiche en jour, heure, minute, seconde, le temps qui reste jusqu'à cette date ou écoulé depuis cette date. Donc voilà, c'est comme un compte à rebours, mais que vous programmez...
Préoccupation d'astronaute.
Voilà, vous rentrez une date d'un événement qui vous intéresse et vous voulez savoir combien de temps il y a jusqu'à cette date ou écoulé depuis cette date.
Elle est commercialisée ?
Elle est commercialisée depuis un an sous licence de l'Agence spatiale européenne qui a payé la protection de l'invention par un brevet depuis une dizaine d'années.
Eh bien, je rappelle le livre absolument passionnant que vous avez coécrit, Jean-François Clairvoy, avec Franck Lehaut, médecin de l'aérospatiale, Histoire de la conquête spatiale, paru chez Vibert. Vous revolerez.
Merci.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.